Dans la salle, y a-t-il des gens qui voudraient... Monsieur Escaig?
Oui, je dirais que c'est la moitié d'une question et la moitié d'un commentaire. Vous avez eu la gentillesse de prendre des exemples dans la physique, ce qui nous simplifie un petit peu le discours, si je peux dire. Vous avez fait allusion, je dirais, au problème fondamental de la mécanique quantique, la localisation d'un... Alors moi, ce que je voudrais simplement remarquer, c'est que la limite, elle est aussi dans le langage. Parce que le langage est une théorie. Par exemple, dans cette histoire de principe d'incertitude, c'est un principe d'incertitude quand on dit il y a une vitesse et une position. Et ça, c'est un langage et c'est un modèle mécanique. Et qu'est-ce qu'ont fait les physiciens? Et c'est là qu'on dépasse la limite. Tant qu'on reste dans la mécanique, il y a une limite. Mais ça n'a pas empêché les physiciens de parfaitement décrire la structure électronique des isolants et des conducteurs. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont changé de langage. Ils ont pris un langage qui est contradictoire et qui est ondulatoire. Ils ont dit, on ne va plus parler de vitesse et de position, on va parler d'une onde. Et là, ça marche. Donc, par conséquent, ils ont un outil, ils ont un langage, dont on sait pertinemment la validité au niveau des échelles de grandeur, des échelles macroscopiques ou microscopiques, et selon la commodité, quand on en a besoin, on change de langage. Et là, on perçoit bien qu'il n'y a plus de limites parce qu'on a changé de langage, donc de théorie, en quelque sorte.
Absolument.
Et je pense qu'en santé mentale ou un truc comme ça, on est un peu dans le même truc. Okay. Quand on parle synapse, quand on parle neurone ou je ne sais pas quoi, on est dans un langage, dans une théorie, par définition, dès qu'on prononce ces mots. Mais on pourrait aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, considérer que le cerveau, c'est un gaz, etc. Et là, on prend un autre langage. Et donc, on peut dépasser à ce moment-là. Et ça montre bien que je ne vois pas pourquoi il y aurait une limite, en quelque sorte, à l'efficacité. C'est pas forcément à la vérité, parce que quand vous avez dit tout à l'heure la température, on a pris des petites boules. Oui, mais ça ne décrit pas le gaz complètement. Ça ne décrit pas l'odeur du gaz. Ça ne décrit qu'un aspect, c'est la machine à vapeur qui rapporte de l'argent. Et ça marche. Et on sait qu'avec une seule idée, qui est l'énergie cinétique des particules, on gagne de l'argent. Et ça marche. Mais on ne prétend pas décrire ce que ça serait qu'un gaz pour tenter que ça existe, ce que c'est un gaz. Donc je pense que la science peut être utilisée avec une petite précaution, c'est qu'il faut dire que la vérité n'existe pas.
Absolument.
Et qu'on n'a simplement qu'un aspect. Et moi, quand je commençais mes cours de thermodynamique, si je peux me permettre ça, je montrais à mes étudiants un tableau de Cézanne qui représentait des pommes. Et je leur disais, vous voyez, la peinture, c'est un truc qui marche parce que vous avez envie de manger ces pommes. Eh bien, nous, en physique, on va faire la même chose. On va vous montrer des machins qui marchent, mais qui ne décrivent pas ce que c'est qu'une pomme. Ceci n'est pas une pomme. Voilà.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, pour cette histoire de vérité, on ne le dira jamais assez. En santé mentale, on a été victime de discours de vérité. Hein, ça change tous les 20 ans. Il y a 20 ans, la vérité, c'était ça. L'autisme, c'était la relation mère-enfant, taratata. Et puis aujourd'hui, l'autisme, c'est de la génétique. Ben non, donc on a des théories qui décrivent des choses, c'est tout. Et puis, c'est vrai que... alors moi, je ne suis pas neuroscientifique. Néanmoins, quand je les regarde, j'ai l'impression, de la même façon que vous les décriviez, qu'ils sont prisonniers des mots structure-fonction. Voilà, vous voyez, c'est que... En neurosciences, on décrit le cerveau avec structure et fonction. Alors, c'est extraordinairement fertile, naturellement. Hein. C'est pas parce que... Voilà, c'est très fertile. D'ailleurs, la preuve, hein, on le voit tous les jours. On peut faire l'IRM fonctionnel, etc. Il y a des structures et des fonctions. Mais, quelque part, de penser la vie psychique en termes de structure-fonction, eh ben, ça nous enferme, quelque part, d'une certaine façon.
Je vais peut-être oser quand même un commentaire personnel en essayant d'intégrer très vite, trop vite, ce que tu nous apportes. Est-ce que tu accepterais que je te réponde non, Bruno? Je pense qu'il y a fondamentalement une limite à l'approche scientifique dans la recherche en santé mentale. Pourquoi? Parce que c'est un peu ça la fédération aussi, c'est tenter d'intégrer les résultats de la recherche finalement dans les traitements, dans la modification des prises en charge, les structures de soins, la façon de concevoir le soin. Et alors je dis, d'accord sur ce que tu dis sur les mots, approche scientifique, là il n'y a pas de limite. Tu nous dis, s'il y a des limites, c'est du côté de l'interprétation de ces faits-là, hein, c'est du côté des théories. Ben oui, mais il y a une limite parce que c'est nécessaire de passer à la théorie pour s'approprier tout ça. Et donc, il faut s'approprier ce fait d'expérience pour arriver plus tard à modifier une pratique, une conception. Et donc, puisqu'il faut faire ça, il y a une limite.
Oui, mais je suis d'accord. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de limite à l'approche scientifique, c'est plutôt en réponse à certains qui pourraient dire « Ce champ de la vie psychique, ça n'est pas pour vous scientifique, ça vous échappe. » Voilà. Il y a un discours, vous ne pouvez pas toucher à ça. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des, en ce moment, vous savez, dans la science, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des limites de territoire. Hein. Et on voit par un moment des scientifiques qui discutent avec des chercheurs de sciences humaines et sociales qui sont mutuellement bien contents de tracer une ligne de partage en disant « ça, c'est pour nous, ça, c'est pour vous, comme ça, tout le monde est d'accord ». Eh bien non, voilà, non. L'approche scientifique, la démarche scientifique de réfuter et d'observer, on peut s'en servir pour toutes les questions. Voilà. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un frein à la curiosité. Après, bien sûr qu'on ne sera jamais assez prudent sur les limites dans l'interprétation, les limites dans les théories et le fait que c'est obligatoire d'utiliser des théories et qu'il faut avoir conscience de leurs limites.
Un grand merci pour cette réponse, hein, celle que j'attendais. Avant de passer la main à la suite du programme, je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que Bruno Falissard se lance dans une expérience qui lui tient à cœur, et puis pour ceux qui ont déjà goûté à ça, je vous assure que c'est formidable, il tente de mettre en place, il a commencé, un séminaire virtuel. Hein. C'est-à-dire qu'il a, il met à disposition, gratuitement, de nous tous, hein, sur le net, hein, une série de conférences, hein, qu'on peut consulter, et dont la thématique globale, ce séminaire, il y a bien sûr un titre, hein, c'est quoi, je n'ai pas exactement tout noté, mais c'est « Regard décalé sur la recherche en santé mentale ». C'est des petites conférences, enfin des petites conférences, c'est des moments de conférence de 50 minutes qui sont très intéressants, et comme c'est un homme très moderne, vous avez compris, hein, il passe sur iTunes, donc pour ceux qui ont des iPhones ou des iTouch, on peut télécharger dans les embouteillages, ça c'est très parisien, hein, de s'occuper à optimiser le temps dans les embouteillages, mais ça nous viendra peut-être à Lille bientôt, hein, où on peut, sur son téléphone comme ça, écouter ce genre de réflexion avant d'aller se rendre au travail. Je trouve que c'est un joli pied de nez à notre vie quotidienne. Voilà, je vous remercie tous et je passe la parole pour la suite. Merci.